Alléluia, Seigneur. J'ai fait la lumière dans une certaine chose de ta vie que tu connais et que je connais, que personne d'autre ne connaît. Mais je voudrais que tu l'abandonnes, que tu abandonnes cette chose-là qui me déshonore dans ta vie. Je voudrais que mon image se reflète davantage et mieux dans ta vie. Alors, obéis à ce que je t'ai montré. Je t'ai montré quelque chose qui me déshonore. Alors laisse cela. Si tu m'aimes, alors suis-moi et obéis. Tu nous honores par ta présence, Seigneur. Que nos vies puissent t'honorer aussi maintenant, Seigneur. Et que nous puissions non plus vivre pour nous-mêmes, mais vivre pour toi. L'agneau sacrifié pour chacun de nous. Nous abaissons devant toi, que sommes-nous? De petites poussières devant toi, mais des enfants rachetés. Et nous savons que nous avons de la valeur à tes yeux, parce que tu as payé le grand prix pour venir nous chercher. Seigneur, tu es mort à ma place. J'étais condamné à une éternité loin de toi. Et tu es venu me chercher et tu m'as affranchi de mon péché et de ma vaine manière de vivre et du monde et de l'esprit du monde. Seigneur, désormais je veux vivre dans la sanctification sans laquelle nul ne te verra. Seigneur, puisses-tu nous trouver obéissants, suivant l'agneau, afin que l'image de l'agneau puisse se refléter dans notre vie. Amen.
Je suis racheté. Avec Dieu, je suis réconcilié.
Seigneur me donne cette occasion de vous transmettre la vision qu'il m'a donnée hier, une vision merveilleuse que je veux vous transmettre le plus fidèlement possible. Il a dit, quand j'étais sur la terre, je suis venu sous la forme d'un agneau, j'ai été sacrifié, et c'est sous cette forme-là d'agneau sacrifié pour mes enfants, pour ceux qui acceptent mon salut, que je suis là aujourd'hui et que je les conduis dans ce monde. Et en complément de cette vision que le Seigneur m'a donnée au Canada au mois de septembre, que j'ai déjà dite une fois, mais je vais la redire parce qu'elle est tellement merveilleuse, où j'ai vu le peuple de Dieu, les enfants de Dieu sur la terre, comme une grande foule qui marchait et devant l'agneau qui les conduisait. C'est l'image du Seigneur sur cette terre. L'agneau immolé que toute la foule de chrétiens suivait. Et quand l'agneau marchait, il marchait. Et quand l'agneau s'arrêtait, il s'arrêtait. Ces gens-là étaient obéissants à l'agneau. Et si tu veux être transporté dans la gloire, il faut obéir à l'agneau. Donc le peuple de Dieu, mais ça rejoint une autre pensée, la pensée de la fidélité de l'agneau à notre égard. Derrière l'agneau qui marchait et qui suivait le Seigneur, l'agneau, la foule de pèlerins et devant les lévites, les adorateurs, qui formaient une protection par devant le peuple de Dieu, et par derrière le peuple de Dieu, l'armée de l'Éternel, qui était là encore pour défendre le peuple de Dieu qui suivait l'agneau. Tout cela, c'est merveilleux, c'est ce qui se passe sur cette terre. Mais le Seigneur m'a donné ses paroles pour nous, peuple de la fin des temps, pour nous encourager, parce que les temps seront de plus en plus difficiles. Et il nous avertit que nous avons besoin de marcher strictement derrière l'agneau, avec une obéissance stricte à ce qu'il nous dit et à sa conduite, à la conduite de l'agneau. Mais il nous encourage à croire qu'il sera fidèle pour nous conduire au travers des difficultés, des souffrances, des combats les plus grands. Et il nous dit aujourd'hui, « Mon peuple, plus les temps de la fin seront difficiles, plus je te donnerai l'occasion d'expérimenter ma fidélité à ton égard. Je n'ai jamais renoncé à ma fidélité, dit le Seigneur, l'agneau. Tous mes sentiers sont basés sur la miséricorde et la fidélité. Je les ai établis dans les cieux, ces sentiers de fidélité. Et dans les temps d'épreuve, ma fidélité sera ton bouclier. Elle t'environnera de toutes parts. Toutes mes œuvres, toutes mes ordonnances, tous mes commandements sont basés sur ma fidélité à ton égard. Ma fidélité pour toi, mon peuple, est grande. » C'est l'agneau qui parle. Il s'est abaissé assez pour dire cela. Elle atteint jusqu'aux nues. Elle dure de génération en génération. Ma fidélité ne chancellera jamais, car je suis pour toi un Dieu immuable. Et c'est ma fidélité qui t'a conduit jusqu'ici et qui te conduira jusque dans ma gloire. Ça, c'est ce qui se passe sur la terre. Mais après, le Seigneur m'a fait la grâce de voir la situation. Une partie, il a levé le voile sur partie de ce qui se passe dans le ciel. Et dans le ciel, j'ai vu une nuée, une grosse nuée, qui était comme une gerbe de feu, qui se répandait de tous côtés. Une lumière éclatante au-dessus du ciel qui était sur le peuple de Dieu, au-dessus du ciel qui est au-dessus de la tête de ces gens-là qui sont sur la terre, le peuple de Dieu. Il y avait quelque chose de merveilleux, c'est cette nuée qui est comme une gerbe de feu et qui rayonne comme, il y a tout comme un arc-en-ciel autour. Et au milieu de cette nuée, une pierre précieuse. Un saphir, je ne sais pas, une pierre très précieuse. Et au milieu de cette pierre précieuse, un trône. Et sur ce trône, le Fils de l'homme. L'agneau sur la terre est devenu le Fils de l'homme glorifié, le roi. Et ce roi-là est assis sur le trône là-haut. Et il se prépare à revenir. C'est ce que le Seigneur m'a dit. Prépare-toi, peuple de Dieu. Je vais me lever et je vais venir te chercher. Alors reste obéi à l'agneau. Fais ce que je te dis. Ne t'écarte ni à droite ni à gauche, sinon tu sors de ma protection, dit le Seigneur. Je ne pourrai pas te protéger si tu sors de l'environnement de l'agneau. Et des Lévites et de l'armée de l'Éternel qui campe par devant, par derrière, pour te protéger. Si tu sors de ma protection, tu prends des risques, tu vas chavirer. Alors l'agneau te dit, suis-moi, tu es le roi, Seigneur. Si tu as été l'agneau sur la terre, maintenant tu es le roi. N'oublions pas que tu as changé d'aspect maintenant. Tu es toujours l'agneau, évidemment, mais tu es aussi le roi qui revient. Alléluia, Seigneur. Et nous voulons, Seigneur, suivre tes traces et ne pas nous écarter du chemin étroit, ni à droite, ni à gauche, de peur de perdre cette bénédiction merveilleuse d'être à toi et de pouvoir entrer dans ta gloire. Ô louange à toi, que rien de souillé ni d'impur ne vienne ternir l'œuvre de Dieu dans notre vie. Alléluia, Seigneur. Amen.
Tu connais nos besoins. Inspire selon les besoins de chacun. Tu veux nous faire du bien. Tu veux nous attirer à toi. Tu veux nous parler parce que tu nous aimes. Seigneur, aide-moi, je compte sur le ministère du Saint-Esprit pour inspirer cette parole de Dieu et que mes frères et sœurs aussi soient bénis et qu'ils puissent être sous l'onction du Saint-Esprit pour recevoir ta parole afin qu'elle porte du fruit et un fruit qui demeure. Merci Seigneur. À ton nom soit toute la gloire. Amen. Merci Seigneur. Nous restons dans cet esprit de recueillement et de prière. Le Seigneur nous a déjà parlé. Il veut encore le faire. S'il est présent, c'est toujours pour se révéler à nous et pour nous parler comme il parlait autrefois à ses disciples. Et la parole que je voudrais vous donner est une suite un peu de ce que Dorothée vient de dire. Nous allons lire dans la première épître de Paul aux Thessaloniciens des versets bien connus, versets à partir du verset 5 jusqu'au verset 10. 1 Thessaloniciens 1, 5 à 10. Verset 4 déjà. Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus. Notre évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion. Car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur en recevant la parole au milieu de beaucoup d'afflictions et avec la joie du Saint-Esprit, en sorte que vous êtes devenu un modèle. Retenez ce mot, un modèle. Soulignez ce mot, il est important, nous allons y revenir tout à l'heure. En sorte que vous êtes devenu un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. Non seulement en effet, la parole du Seigneur a retenti, et dans le texte grec, c'est a retenti comme un coup de clairon, comme un coup de clairon, de chez vous, dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais encore votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu, de telle manière que nous n'avons plus besoin d'en parler. Car on raconte, à notre sujet, quel accès nous avons eu auprès de vous, et comment, retenons bien ce verset maintenant, et comment vous vous êtes tourné, comment vous vous êtes, converti à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Soulignez tout ce verset 9, nous allons y revenir. Et pour attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. En effet, si Jésus revient, comme il a été dit, il revient, pour nous ce sera l'événement le plus extraordinaire, mais après cela, c'est le jugement qui vient sur les nations, n'est-ce pas vrai? Et ce sont les jugements terribles qui viennent, mais avant cela, le Seigneur veut enlever son épouse et la prendre avec lui. Et l'apôtre ici, vous le remarquez, il est très enthousiaste. Et partout où il allait, on l'accostait, et puis même ceux qui étaient avec lui, en disant, mais qu'est-ce qui est arrivé là-bas, en Thessalonique? Mais c'est extraordinaire, on n'entend parler que des Thessaloniciens. Qu'est-ce qui se passe? Comme un coup de clairon, ça allait un peu de partout. Et bien sûr, Paul en était fier. C'est tout ce qu'un prédicateur doit espérer, que ses ouailles, ceux qui l'écoutent, vivent une vie chrétienne authentique, une conversion authentique. Parce qu'il est dit ici, ils se sont convertis à Dieu en abandonnant les idoles. Et il n'y a rien de tel pour un serviteur de Dieu de voir ces chrétiens qui autrefois étaient païens et qui d'un seul coup changent littéralement, un véritable changement par rapport au passé. Il n'y a rien de tel pour encourager un prédicateur, mais il n'y a rien de tel aussi pour le décourager, si cela n'est pas le cas. Si ces chrétiens sont toujours les mêmes, ne changent pas beaucoup, où tout est en surface et ils n'avancent pas. Loin de parler d'eux comme des modèles, on les fuit plutôt parce qu'on ne voit pas tellement le Seigneur en eux. Et cela est malheureusement une réalité aujourd'hui, n'est-ce pas vrai? Et le Seigneur voudrait que nos vies le glorifient. Comme Pierre a été encouragé, mais pourquoi a-t-il été encouragé? C'est ce que nous allons voir. Pourquoi est-il enthousiaste? Est-ce que parce que ça s'est fait comme ça? Rien ne se fait par hasard et automatiquement. L'action du Saint-Esprit est toujours liée à une prédication fidèle de la parole de Dieu. Et dans le verset 9, retenez bien ce verset, car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Nous voyons donc ici cette conversion à Dieu s'est faite en abandonnant les idoles. Donc c'est une conversion, c'est un changement complet dans sa vie. C'est un demi-tour complet. Le mot conversion, c'est cela que ça veut dire. C'est pas seulement Seigneur, voilà, je me suis converti, mais il n'y a pas de changement. Le mot conversion veut dire que radicalement, il s'est passé quelque chose et que ces personnes d'autrefois ne vivent plus du tout la même vie maintenant. Le passé est définitivement passé. Ils se sont convertis à Dieu maintenant pour servir le Dieu vivant et vrai. Pourquoi le Dieu vivant et vrai ici? Parce qu'il est question d'idole. Et l'apôtre voulait mettre l'accent comme pour dire le Dieu que vous servez maintenant, que vous connaissez maintenant, c'est un Dieu vivant en opposition aux idoles. Qui sont des idoles mortes. Bon, je n'ai pas le temps de lire, mais le psaume 115, vous pourrez le lire, il est parlé des idoles, les idoles qui ont des oreilles mais qui n'entendent pas, qui ont une bouche mais qui ne parlent pas. Ceux qui les adorent sont comme eux, ils deviennent semblables à leur idole. Et alors, Paul voulait leur dire, le Dieu que vous servez maintenant, c'est un Dieu vivant. En opposition à ces idoles qui sont des idoles mortes et qui ne pouvaient rien pour vous. Vous avez prié ces idoles, vous avez chanté à ces idoles, vous les avez pris sur vous comme des fétiches ou je ne sais quoi. Vous avez fait des incantations, vous avez fait des sacrifices, vous avez fait tant de choses, mais c'était des idoles mortes. Et s'il y a eu une intervention, cette intervention ne prouvait pas que l'idole était vivante, c'était qu'un démon était là derrière pour répondre à cela. Et nous le voyons que tout de suite, quand Paul prêchait l'évangile, il mettait en évidence qu'une vraie conversion est en rapport avec les idoles que nous avions autrefois et qui doivent être abandonnées. Une idole, c'est quoi? Le mot est fort ici. D'ailleurs, dans une autre version, on peut lire aussi « faux Dieu ». En abandonnant les idoles, pas seulement les idoles, les faux dieux. Une idole, c'est ce que c'est quand quelqu'un a une idole. Il n'y a rien de plus précieux. Vous êtes d'accord avec moi? Cette idole n'a pas besoin d'être grande. Une petite idole, de rien du tout. Un petit truc de rien. Oh, ne touchez pas à ça. Non, surtout pas. Surtout
tout pas.
Oui, une idole, c'est ça.
C'est quelque chose à laquelle on est profondément attaché. C'est pas seulement quelque chose voilà, qui est superflu dans notre vie ou dans la vie de ces Thessaloniciens. Non, c'était quelque chose auquel ils étaient très attachés. Et alors, ils se sont convertis. Ça veut dire que ils ont littéralement coupé à ce qui était le plus cher dans leur vie, ce qui faisait leur vie autrefois. Vous voyez, la vie chrétienne n'est pas le prolongement de notre vie passée. Autrefois, j'étais comme ça, mais maintenant, je suis un peu meilleur. Avant, j'étais voleur. Je volais 10 000, beaucoup d'argent. Maintenant, j'en vole un peu moins. J'en vole un peu moins. Autrefois, j'avais une dizaine d'idoles. Maintenant, j'en ai gardé que deux. Une. Vous voyez ? Autrefois, je mentais beaucoup. Mais maintenant, c'est de temps en temps. Et beaucoup pensent qu'avec un tel comportement, c'est ça, être chrétien. Ah ben, on s'améliore. Il y en a qui se convertissent tous les jours. Si quelqu'un se convertit tous les jours, ça veut dire qu'il ne s'est jamais converti. Si tu te convertis tous les jours, ça veut dire que tu ne t'es jamais converti. Pourquoi ? Parce que tu n'as pas compris ce qu'est la vraie conversion. On se convertit une fois. Si on le fait une fois pour toutes, il y a un changement radical. Comment vous êtes converti à Dieu ? En abandonnant les idolés. Faux Dieu pour servir. Comme Paul voulait leur dire, vous avez servi avant ces idoles. Vous les avez servis. C'était des idoles mortes. Le Dieu vivant est vrai. Vrai en rapport aux idoles qui sont mensongères. L'idole, c'est un mensonge. Et quelqu'un qui est idolâtre, qui garde une idole dans sa vie, il est menteur comme l'idole est un mensonge. Et c'est là que Paul dit au début, au verset 7, en sorte que vous êtes devenus un modèle. Et dans le texte grec, le mot est au singulier. Comme pour dire, ce que vous vivez là, eh bien tous les chrétiens doivent le vivre. Et vous le savez comme moi, quand on lit un petit peu ce qui s'est passé à Thessalonique, c'est une église qui a été fondée en 3 semaines. Dans Actes 17, vous verrez un peu tout le détail de comment l'église a commencé à Thessalonique. Il est resté 3 semaines, pendant 3 sabbats, il a enseigné, et au bout de 3 sabbats, les juifs sont venus, ils ont commencé à s'opposer et à créer des troubles, si bien que Paul a dû fuir. Il est parti à Philippe, ensuite à Corinthe, et alors de Corinthe, il voulait avoir des nouvelles. Et c'est au bout de 6 mois environ, il a envoyé Timothée là-bas pour savoir ce que ces chrétiens étaient devenus, parce qu'il était seulement resté 3 semaines. Mais oui, en prêchant 3 semaines, mais en prêchant la vérité, que tout de suite, quand on est chrétien, on abandonne ses idoles. Ce qu'on a de plus cher, ce à quoi on était attaché le plus, ça doit être une coupure totale et définitive. Il a tout annoncé. Et l'Esprit de Dieu a fait son œuvre. Si bien que, environ 6 mois après, Timothée vient et lui donne des nouvelles. De ces nouvelles-là. Car on raconte à votre sujet. Alors Paul, il est là comme ébahi. Extraordinaire. Il se réjouit. Comment vous êtes convertis ? C'était leur témoignage, c'était comme une répercussion, ce qu'ils avaient reçu. Ça ne veut pas dire qu'eux-mêmes, ils allaient en tout lieu, mais on parlait d'eux un peu de partout. Tellement leur vie était changée. Voyez-vous la puissance d'une vie changée ? On ne s'en rend pas compte. La vie chrétienne, ce n'est pas seulement « je suis béni, je suis sauvé », mais c'est plus que ça, là. C'est le témoignage, la répercussion, comme un coup de trompette, un coup de clairon. Les vies sont changées, ils ne sont plus les mêmes. Aujourd'hui, chacun sa petite religion, on est dans son petit truc. On ne doit pas en parler, on ne doit même pas en parler aux autres. Il faut respecter l'autre. Respecter l'autre qui va en enfer. S'il est perdu, il faut le laisser partir. Il faut se taire. C'est pas possible, n'est-ce pas ? Et là, nous voyons la puissance de l'Évangile. C'est ce que je voudrais qu'on réalise ce matin, que le Seigneur voudrait qu'on réalise. Nous avons entre nos mains cette parole de Dieu. L'évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Mais pour qu'il devienne une puissance, il faut la prêcher fidèlement. Il faut la dire les choses comme elles sont. Et là, il dit bien, vous êtes un modèle. C'est un modèle. Donc, autrement dit, tous les chrétiens, tous ceux qui se convertissent, devraient prendre modèle là-dessus. C'est parce que c'est là qu'on voit le modèle d'une vraie conversion. Écoutez-moi bien. Quand dans la vie chrétienne, on commence mal, toute notre vie chrétienne va en souffrir. Un arbre qui pousse tordu, vous pouvez le redresser après? Dites-moi un petit peu, qui est-ce qui peut redresser un arbre qui a poussé tordu? C'est fini. Il pousse tordu dès le départ, c'est fini. Si vous allez le redresser, ça va casser, il n'y aura plus rien. Et s'il est assez gros, vous ne pouvez même pas, c'est fini. Ce qui se passe au départ est extrêmement important. Sinon, nous pouvons perdre des années dans notre vie chrétienne. Et nous croire chrétiens alors que finalement, on n'est pas... On se dit chrétien, mais en tout cas, on est loin d'être des disciples du Seigneur. Loin d'être des disciples. Il y a donc des... Paul n'a pas fait de compromis. C'est ça qui est beau avec lui. Il a tout dit. Et l'Esprit de Dieu a pu faire son œuvre. Et j'aimerais parler de quatre compromis, parce que cette histoire-là, ce récit-là, on peut le mettre en parallèle avec les Israélites qui voulaient sortir du pays d'Égypte et Pharaon voulait les retenir. Et vous allez remarquer, à quatre reprises, Pharaon utilise des arguments pour garder les Israélites en Égypte. Et ces quatre arguments sont comme quatre compromis dangereux qu'un chrétien peut faire dans sa vie chrétienne. Quatre compromis. Et nous allons voir que Moïse était un peu comme Paul. Il a dit, non, il n'est pas question. À un moment donné, il dit, il ne restera pas un ongle ici en Égypte. On doit tous partir. Les hommes, les femmes, les enfants, tous, le bétail, tous. Parce qu'on va voir, il va marchander, Pharaon. Il va marchander. Vous comprenez, c'est cette foule qui est là. C'est, économiquement, pour lui, c'est extraordinaire, ces esclaves. C'est une main-d'œuvre bon marché. S'ils s'en vont, mais c'est pas bon pour lui. Alors, il ne veut pas les laisser partir. Et nous, à notre conversion, le diable ne veut pas nous laisser partir. Vous devez réaliser cela. Parce qu'on change de maître. La conversion, c'est un changement de maître. Vous ne pouvez pas servir deux maîtres à la fois. C'est un changement de maître. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes chrétien, que je ne peux pas dire que je suis chrétien, que j'ai changé de maître, alors que je fais encore la volonté de mon ancien maître. Ça ne marche pas. C'est ou l'un ou l'autre. Mais on vit une époque où le mélange, l'amalgame, le compromis est mis en évidence et même vanté. Ce sont ces gens-là qui sont des gens sages. Ces gens-là sont des gens intelligents, équilibrés. Quand on fait plaisir à tout le monde, vous êtes bien vus. Mais soyez un peu tranchants, comme Paul, comme Moïse. Vous verrez que les choses changeront et que Pharaon ne sera pas content. Et vous savez que Pharaon, c'est l'image du diable. Alors, il y a quatre compromis. Le premier compromis, nous le trouvons dans Exode 8, 21. Donc, c'est dans le livre de l'Exode, Exode 8 et 10, que nous allons trouver. Si vous lisez encore Exode 7, 8, vous verrez constamment, Moïse vient pour demander au Pharaon, « Laisse aller mon peuple ». Afin qu'il me serve, laisse aller mon peuple. Et chaque fois, le Pharaon ne veut pas, il ne veut pas laisser aller le peuple. À plusieurs reprises, Moïse est venu. Et à un moment donné, Pharaon, il en a un peu assez. Et puis voilà, il commence à faire des compromis. Voilà. Il semble un peu être d'accord maintenant avec ce que Moïse dit. Et Exode 8, 21, Pharaon appela Moïse et Aaron et dit, voyez, il en avait un peu assez, il a dit, allez, offrez des sacrifices à votre Dieu. Mais Moïse, qu'est-ce qu'il avait dit? C'était dans le désert, il devait partir dans le désert, il devait s'éloigner. Pendant 3 jours, il devait partir. Ce n'était pas pour rester en Égypte. Et qu'est-ce qu'il ajoute, le diable, Pharaon? Allez offrir des sacrifices à votre Dieu. Oui, c'était comme ce que Moïse avait demandé. Mais il ajoute quelque chose. Le diable, il ajoute toujours quelque chose. Ou il ajoute et il retranche. Dans le pays. Est-ce que Moïse avait demandé ça? Alors, voyez-vous, le diable, Pharaon, il laisse partir Israël, mais avec un compromis. Et le premier compromis ici, tu peux servir Dieu sans changer. Voilà le premier compromis. Tu peux servir Dieu. C'est comme si le diable nous disait, oh, tu peux servir Dieu. Mais ce n'est pas nécessaire de changer. Conversion. Dans le pays, imaginez Israël qui font des sacrifices. Une fois qu'ils ont fini leur sacrifice que Dieu avait demandé, ils allaient retourner à tout ce qu'ils faisaient. Donc ils restaient dans le pays. Sans aucun changement, ils faisaient les sacrifices, mais ils continuaient de vivre comme avant. Alors voyez-vous le compromis? Tu peux servir Dieu sans changer. Tu peux être chrétien sans changer de vie. N'est-ce pas une tragédie, ça? Et des multitudes aujourd'hui se disent chrétiens. Il n'y a pas de changement. Les idoles qu'ils avaient, ils les ont toujours. Puisqu'on parle d'idoles ici. Et il est question d'idole. Le mot est important, parce que c'est ce qui tient les gens liés. C'est ce qui tient les gens captifs. C'est ce à quoi on est attaché. Tu peux abandonner mille et une choses, mais si tu gardes la chose la plus précieuse dans ta vie, c'est un compromis tragique. Donc le premier compromis du diable dans notre vie, c'est de dire, tu peux te convertir, d'accord, mais tu n'as pas besoin de changer. Vous vous rendez compte? Regardez la contradiction. Se convertir sans changer. Alors, se convertir, ça veut dire justement changer de vie. Donc, un point très important. Si je suis converti, est-ce que je suis toujours le même? Vous connaissez dans Actes des Apôtres, il y a un passage que Paul prêchait la repentance partout et il prêchait que aussi la repentance et les fruits dignes de la repentance. Il prêchait la conversion à Dieu et la repentance et les fruits dignes de la repentance. Je ne me souviens plus le passage, c'est dans Actes 19, enfin je pourrais noter comme cela, mais pour montrer qu'il prêchait la conversion à Dieu et la repentance et les fruits dignes de la repentance. Donc, un chrétien, quelqu'un de converti, c'est quelqu'un qui veut changer de vie. Si quelqu'un ne veut pas changer de vie, où est la preuve de sa conversion? Vous êtes d'accord avec moi? S'il ne veut pas changer, qu'est-ce que ça veut dire quoi? Alors pourquoi tu t'es converti? Converti, ça veut dire changer de vie. Et tu ne veux pas changer? Alors qu'est-ce que c'est que cette conversion? Vous voyez le compromis du diable. Et vous le savez comme moi, des multitudes se disent chrétiens et seront perdus. C'est tragique cela, n'est-ce pas vrai? Des multitudes. Et on les a trompés. Mais ils ont leur responsabilité aussi. Parce qu'ils ont la parole de Dieu. On ne peut pas dire, ah oui, mais c'est à cause de tel un, de ce... Non. L'autre a sa responsabilité. S'il conduit les gens dans l'erreur. Mais vous avez la responsabilité de vérifier tout ce qu'on vous dit. C'est votre responsabilité. Premier compromis, tu peux servir Dieu. Tu peux être converti sans changer, sans trop changer. Alors, tu restes en Égypte, tu fais les sacrifices, alléluia, gloire à Dieu, et puis après on continue comme avant. Regardez-moi ça, quel mensonge. Est-ce qu'on est converti dans ce cas-là? Absolument pas. On ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. C'est impossible. Si on dit qu'on est converti, il y a une coupure, une rupture avec le passé. Et avec ce qu'on a de plus cher. Pas seulement des choses superficielles. mais le plus cher. Là, quelqu'un prouve que là... Acte 19-19, cette fois, j'ai la référence aussi. Vous savez, quand ceux qui pratiquaient l'occultisme et autres se sont convertis, acte 19-19, ils ont brûlé leurs livres de magie. Vous vous souvenez ? Acte 19-19, c'est facile à retenir, là. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, oui, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. On en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. Et vous savez ce que ça fait, 50 000 pièces d'argent ? Ça correspond à 10 000 euros à peu près. Ça correspond au salaire de 10 ouvriers pendant 20 ans. Ça correspondait à ce moment-là. C'était pas une petite somme. C'était pas une petite somme. C'était leur idole, c'était leur faux dieu. Ça leur coûtait cher. Mais dites-moi, quand vous brûlez ça, ça prouve bien que vous avez compris quelque chose. D'accord avec moi ? Vous avez compris quelque chose ? Mais si vous dites, qu'est-ce qui se passe ? Tu te convertis pour quoi ? Pour rester le même ? Ah oui, mais on m'a dit ça, moi. Ah oui, il y en a beaucoup qui le disent. Ah oui, mais ce sont des faux prophètes. Et ce sont des faux docteurs. Ah, on m'a dit, tu aimes bien écouter cela, n'est-ce pas ? Tu veux bien aller au ciel et vivre sur la terre comme pour le diable. Tu veux aller au ciel pour vivre pour Jésus, mais sur la terre, tu veux vivre pour le diable. Et tu veux quand même aller au ciel avec Jésus. Ça ne marche pas. Et on raconte comment vous vous êtes converti à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et d'attendre des cieux son Fils qui nous délivre de la colère à venir. Un verset extraordinaire. C'est ce verset qui montre une véritable conversion. Bon, on va aller plus loin. Le deuxième compromis, c'est quoi d'après vous ? Alors, on va le trouver. Allons un peu plus loin. Deuxième compromis, c'est dans 8:24. 8:24. Verset 23 déjà, Moïse dit, « Nous ferons 3 journées de marche dans le désert et nous offrirons des sacrifices à l'Éternel, notre Dieu, selon ce qu'il nous dira. » Pharaon dit, « Je vous laisserai aller. » Ah voilà, le compromis arrive. « Pour offrir à l'Éternel, votre Dieu, des sacrifices dans le désert, seulement... »
Ah, il y a un petit truc là en plus.
« Seulement, vous ne vous éloignerez pas en y allant. » Et priez pour moi, en plus, il dit, tu vois. Il fait exactement le contraire de ce que Dieu dit par la bouche de Moïse, et puis encore, il faut prier pour lui. Et il y en a comme ça. Priez pour moi. Ils sont dans la désobéissance, la rébellion. Il faut encore prier pour eux. Parce que si Dieu les exauce, ils vont se dire, voyez bien, pour moi, ça marche. Moi, Dieu ne me demande pas d'abandonner ça parce qu'il m'a béni. Il a entendu ma prière, ça veut dire qu'il n'y a rien à changer dans ma vie. Si Dieu a fait une grâce, c'est au contraire, pour te dire que tu dois changer. Si cette chose n'est pas conforme à la parole de Dieu, tu dois dire non, comme Dieu dit non. Alors ici, c'est... Donc, vous pouvez offrir des sacrifices, mais il ne faut pas aller trop loin. Il ne faut pas aller trop loin. Alors, quel est le compromis, tu peux servir Dieu sans obéir. Sans obéir. Puisque Dieu a dit qu'il fallait partir, l'autre a dit que tu peux encore prier pour moi. Donc, tu peux servir Dieu sans lui obéir. Ou si tu veux, tu peux être béni par Dieu même sans obéir. Voilà. Vous ne trouvez pas que c'est un compromis, ça, terrible ? Le diable leur dit de ne pas aller trop loin. Autrement dit, il ne faut pas faire trop de vagues. Aujourd'hui, c'est ça. Ah, mais monsieur, mais vous rendez compte ? Mais vous rendez compte ce que je dis ? S'il faut tout abandonner, mais on va me prendre pour qui ? Pourquoi ? Pour un fanatique ? Pour une secte ? Ah, maintenant, c'est les sectes. On n'aime pas ce mot-là. Le chrétien n'est pas une secte. Mais s'il doit être accusé comme étant une secte, eh bien, il doit accepter cette accusation et porter sa croix. Et beaucoup, parce qu'il ne veut pas porter cette accusation, eh bien, ils désobéissent à la parole de Dieu. Ils ne font pas ce qu'il veut. N'allez pas trop loin. Tu peux te servir le Seigneur, mais ne va pas trop loin dans ta vie chrétienne. N'exagère pas, ne fais pas trop de vagues. Reste silencieux, essaye de plaire à tout le monde. Ces chrétiens n'existent pas. Tu sais que tu as un ami qui est dans l'idolâtrie, le mensonge ou autre. Le Seigneur lui montrera. Le Seigneur lui montrera. Et toi, à quoi tu sers? Tu es un témoin ou tu n'es pas un témoin? Dieu ne nous a pas appelés à être ses témoins? Si nous savons que quelque chose ne va pas, nous sommes responsables. Naturellement, si l'autre refuse, c'est sa responsabilité, vous êtes d'accord avec moi? Mais nous sommes responsables. Si tu le sais que tu ne le dis pas, tu es responsable. Ne essayons pas de passer pour des super spirituels alors que nous sommes des rebelles. Tu peux servir Dieu même sans obéir. Dieu peut te bénir même sans obéir. Parce qu'une fois Dieu t'a béni et que tu n'as rien fait de spécial, tu penses que Dieu va tout le temps continuer comme ça. Quelle erreur! C'est au début de la vie chrétienne que ça marche comme ça. Un bébé qui ne sait pas grand-chose encore, Dieu béni. Le nouveau-né, voilà, il se passe des choses extraordinaires au début. Mais après, quand il faut commencer à obéir, quand il faut commencer à changer, les réponses à la prière ne viennent plus comme avant. Mais on est tellement habitué au biberon. On veut toujours notre petit biberon. Oh, j'ai pas. Le Seigneur, il ne veut pas me donner mon biberon aujourd'hui. Et t'as quel âge? 45 ans. Avoir un biberon à 45 ans, vous vous rendez compte? Il est temps que tu l'enlèves, ce biberon. Tu vois pas que les autres se moquent de toi avec ce biberon? Et lui ne voit rien du tout. Ah non, ça me fait du bien. Ça te fait du bien. Et les autres se moquent de toi. Tu vois pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Seulement, n'allez pas trop loin. Pas trop loin. Si on se moque de toi un petit peu, tu arrêtes. Est-ce qu'on nous ferme la bouche? Est-ce que quelqu'un a réussi à te fermer la bouche? C'est le diable qui veut te fermer la bouche. Ne permets pas cela. Tu es converti maintenant pour servir le Dieu vivant et vrai. Que personne ne t'arrête. Tu as une responsabilité, j'ai une responsabilité. Attention à ces compromis. Il ne faut pas faire de vagues. On ne veut pas être dans le camp de ceux qui sont mal vus. Dites-moi, les premiers chrétiens, est-ce qu'ils étaient bien vus? Est-ce que Jésus a été bien vu? Est-ce que les apôtres ont été bien vus? Est-ce qu'ils faisaient partie de la grande majorité? C'était les méprisés, les rejetés. Eux, dans le monde, n'étaient pas dignes, il est écrit dans l'Épître aux Hébreux. Battus, fouettés. Il n'y a pas de compromis avec eux. Ce sont là des modèles, n'est-ce pas vrai? Voilà le modèle d'un vrai chrétien. Et c'est comme cela qu'on expérimente cette joie profonde, comme les Thessaloniciens. Quand on lit cet épître, il y a une joie extraordinaire, et pourtant ils sont dans la persécution. Ils sont dans les tribulations. C'est là qu'on expérimente le plus la présence de Dieu. Le Seigneur n'abandonne jamais sa brebis fidèle. Laissez-moi vous dire une chose, jamais. Jamais, jamais, jamais. Certains t'abandonneront si tu fais des vagues, mais le Seigneur, lui, ne jamais. Jamais. Le berger sera toujours près de sa brebis. Mais si tu as honte de lui, il aura aussi honte de toi. Si tu ne confesses pas son nom devant les hommes, il ne confessera pas le tien devant le Père. Mais seulement, n'allez pas trop loin. N'exagérez rien. Soyez sage, entre guillemets. Soyez équilibré. Ça, c'est l'équilibre du monde qui nous fait renier le maître et qui fait fi des paroles de Dieu. Ses pensées sont au-dessus de nos pensées, n'est-ce pas vrai? Ses voix sont au-dessus de nos voix. J'ai noté comme référence aussi Galates 1:10, quand Paul dit « Si j'étais encore, si je voulais plaire aux hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu. Est-ce la faveur des hommes ou de Dieu que je recherche? Mais si j'étais encore, je ne serais pas un serviteur de Dieu. » Voyez-vous, pas de compromis. Il n'y a pas de... Il ne faut pas aller trop loin. Au contraire, il faut aller jusqu'au bout avec le Seigneur. Avec lui jusqu'au bout. et Apocalypse 2.10. Ça, c'était Galates 1.10, et maintenant, il y a Apocalypse 2.10. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de la vie. Voyez-vous, les chrétiens, ceux qui auront une couronne là-haut, ceux qui porteront une couronne, c'est Charles Spurgeon qui avait dit ça une fois, ceux qui porteront une couronne là-haut, ce sont ceux qui auront porté leur croix sur la terre. Si tu refuses de porter ta croix, tu n'auras pas de couronne là-haut. Ne te fais pas d'illusions. Ah, tu parles beaucoup de ta couronne là-haut, mais de ta croix ici-bas, tu n'en veux pas. Et la croix, c'est quoi? C'est ce mépris des autres. N'allez pas trop loin. Attention, ne passe pas pour une secte. Et dès qu'il y a une accusation, une calomnie, c'est fini, on ferme notre bouche, c'est terminé. Si c'est ça les chrétiens, le christianisme, j'en veux plus, c'est terminé, au revoir, on ferme la porte, c'est terminé. D'un seul coup, on devient des Judas. Parce que ça peut aller loin, ça, n'est-ce pas vrai? C'est un petit compromis qui peut nous amener très loin. Vous ne trouvez pas que ce sont des dangereux compromis? Non. Il faut, Seigneur, lui dire au Seigneur, « Seigneur, je vais aller jusqu'au bout avec toi. Sois fidèle jusqu'à la mort. » Pas fidèle jusqu'à ce que les autres se tournent contre toi. Pas jusqu'à ce que l'autre t'abandonne. Jusqu'à la fin, jusqu'à la mort. Donc, l'illusion, le compromis, servir le Seigneur sans lui obéir. Un troisième compromis, c'est dans Exode toujours, 10 cette fois, 10 verset 11. Verset 10 déjà, Pharaon leur dit, que l'Éternel soit avec vous. En plus, oui, il a le nom de l'Éternel dans la bouche. Tout comme je vous ai laissé, je vais vous laisser aller, vous et vos enfants, prenez garde, car le malheur est devant vous. Non, 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 allez, vous les hommes, et servez l'Éternel, car c'est là ce que vous avez demandé, et on les chassa de la présence de Pharaon. Là, il dit, les hommes partez, mais les enfants et les vieillards, restez là. Un autre compromis, le compromis. Tu peux servir Dieu sans te donner entièrement. Parce que imaginez bien, ils partent tous les hommes, sans leurs femmes et leurs enfants. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'ils vont rester longtemps dans le désert là-bas? Ils vont revenir, c'est évident. Comme il est rusé le diable, ah, vas-y. Et alors, cela veut dire que ils ne se sont pas donnés entièrement. Et quand on ne se donne pas entièrement, on revient en arrière. On revient à son idole qu'on a vomi, qu'on a rejeté. On revient à son péché. On revient à ses habitudes. Quand le don n'est pas complet, c'est un compromis terrible. Vous les hommes, allez, mais laissez vos enfants. Et ils savaient très bien qu'ils allaient revenir. Voyez-vous, parfois on peut avoir certaines bénédictions, entre guillemets. Si ces bénédictions nous font faire des compromis avec le Seigneur, cette bénédiction devient une malédiction. Le compromis d'un cœur qui n'est pas entier pour le Seigneur. C'est quand on est entier au Seigneur, avec le Seigneur, qu'on est vraiment heureux. Qu'on est vraiment, vraiment dans la bénédiction du Seigneur. Mais dès que la consécration n'est pas totale, tôt ou tard, vous retournerez en arrière. Je retournerai en arrière. Combien nous devons veiller? Est-ce que cela n'arrive pas? Combien de chrétiens sont entrés dans les églises? Et combien en restent? Vous les voyez, certains ont tout abandonné. Et pourtant, ils ont bien commencé. L'explication est là. Ils pensaient qu'ils pouvaient servir Dieu sans se donner entièrement, sans une consécration totale de leur vie. Cela n'existe pas. Quand on fait cela, il y a toujours des regrets. Toujours, toujours. On retourne en arrière. Rappelez-vous, la femme de Lot. La femme de Lot. C'est le Seigneur qui a dit, souvenez-vous de la femme de Lot. Regardez en arrière. Elle était sortie, mais son cœur était à Sodome. Et avec les Israélites, c'était la même chose. Après, ils sont sortis d'Égypte. Mais l'Égypte est restée en eux pendant 40 ans. 40 ans, ils ont tourné dans ce désert. Alors qu'en 3 semaines, ils pouvaient y aller. En 3 semaines, de l'Égypte en Israël. En 3 semaines, ça pouvait se faire. Et pourquoi ? Parce qu'il y avait là. Ils ont quitté l'Égypte, mais n'ont pas enlevé l'Égypte de leur cœur. Vous les hommes, allez-y. Extraordinaire. Mais il fait en sorte que cette bénédiction, entre guillemets, soit limitée. Et il retient ce qui leur est le plus précieux. On peut faire beaucoup de choses et retenir ce qui est le plus précieux dans notre vie, en Égypte. Et ça, c'est un compromis terrible. Vous ne pouvez pas. Je ne peux pas. On raconte comment ils se sont convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir. La rupture, la coupure. Une fois parti, c'est terminé. Au revoir. Si tu regardes en arrière, tu seras comme la femme de Lot. Pétrifié. Paralysé. Attention au compromis. Où on se donne à moitié. Et le plus précieux, on le garde pour nous-mêmes. Un quatrième compromis, pour terminer, Exode 10, 24 cette fois. Pharaon, verset 23, on ne se voyait plus pas les uns les autres, et personne ne se leva de sa place pendant 3 jours. Mais il y avait de la lumière dans les lieux où habitaient tous les enfants d'Israël. Pharaon appela Moïse et dit, allez, voilà, on a l'impression qu'il va se passer quelque chose là. Allez, servez l'Éternel. Allez-y maintenant, il donne l'ordre. Mais il y a encore quelque chose qui ne va pas. Il n'y aura que vos brebis et vos bœufs qui resteront. Cette fois, c'est les brebis et les bœufs qui doivent rester. Et vos enfants pourront aller avec vous. Ah, maintenant, oui, je vous sens les sentiments. Maintenant, vos enfants, ils peuvent partir. Mais ce sont les brebis et les bœufs qui resteront. Et Moïse répondit, tu mettras toi-même entre nos mains de quoi faire les sacrifices et les holocaustes que nous offrirons à l'Éternel. Nos troupeaux iront avec nous et il ne restera pas un ongle. Car c'est là que nous prendrons pour servir l'Éternel notre Dieu jusqu'à ce que nous soyons arrivés. Nous ne savons pas ce que nous choisirons pour offrir à l'Éternel. Le compromis ici, c'est de, tu peux servir Dieu sans passer par la croix. Tu peux servir Dieu sans passer par la croix. Pourquoi je vous dis ça? Les brebis et tout cela servaient à quoi? C'était inutile? Ils servaient pour les sacrifices. Alors imaginez-vous, tout cela est en Égypte et eux, ils sont là-bas dans le désert. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils n'ont plus rien à offrir à Dieu. Pas de sacrifice, rien du tout. Et sans ces sacrifices, ils sont perdus. Quand ils pêchent, il fallait un sacrifice de culpabilité, enfin tous les sacrifices. Autrement dit, ils ne pouvaient pas vivre. C'était impossible. Le compromis, tu peux servir Dieu, mais sans passer par la croix. Sans la croix. Allez-y, fais ce que tu veux. Tu peux te passer de la croix. Est-ce qu'on peut se passer de la croix? Jamais. Sans effusion de sang, il n'y a pas de salut. C'est par le moyen du sang de Jésus qu'on entre dans la présence de Dieu. Il n'y a pas seulement le sacrifice qui est l'image du sacrifice de Jésus pour nous, mais il y a aussi l'image de la croix comme renoncement à nous-mêmes pour suivre le Seigneur. Et combien de chrétiens vivent une vie chrétienne, mais refusent la croix dans leur vie, le renoncement, le sacrifice? Vous ne pouvez pas leur demander un petit renoncement. Ah non, non, ils veulent que les bénédictions. Ils veulent que les bénédictions, mais pas de responsabilité, pas d'obéissance. Est-ce que ça marche, cela? Ça ne marche pas. Compromis, tu peux servir Dieu sans la croix, sans passer par la croix. C'est impossible. On ne peut pas servir Dieu si on n'accepte pas Jésus, bien sûr, comme le sacrifice parfait pour le pardon de nos péchés, mais ensuite, pour le suivre, nous devons porter notre croix chaque jour, il est dit. Chaque jour, nous devons porter notre croix. Et aujourd'hui, dans certains milieux, il y a un christianisme qui refuse la croix. On ne parle que des bénédictions. Et dès qu'il faut obéir, se sacrifier, renoncer, il n'y a rien du tout.
Souffrir.
Rien, c'est ça. C'est tout. Ça, c'est pas... On n'en veut pas. Quel est notre christianisme? Est-ce qu'on est seulement des chrétiens alléluia, comme je le dis souvent? Je suis un chrétien alléluia, vous aussi, certainement. On est là pour louer le Seigneur, on le fera pour l'éternité. Mais vous ne devez pas seulement être un chrétien alléluia. Il faut aussi être un chrétien amen. Amen, Seigneur, que ta volonté soit faite dans ma vie. Coûte que coûte. S'ils m'ont haï, ils vous haïront aussi. S'ils m'ont rejeté, ils vous rejetteront. Le disciple n'est pas plus que son maître. Mais beaucoup n'en veulent pas de ça. Non. Moi, je veux les bénédictions, les guérisons, le miracle, la puissance, tout ça. Le reste, ça ne m'intéresse pas. Certains même disent que si on a des tribulations et si on souffre, on manque de foi. On manque de foi. Il y a un des prédicateurs américains qui raconte même en disant que si Paul avait eu la révélation que nous avons, il n'aurait jamais souffert comme il a souffert. Certains prédicateurs, et dont les livres se vendent dans nos milieux. Des Kenneth Hagin, des Kenneth Copeland, des Benin, et tout cela. Et j'en passe. Nous devons faire attention. Le compromis d'un évangile sans croix. Allez-y, mais les brebis, vous les laissez là. Et comment je vais faire? Comment je vais faire là-bas? Si je ne peux pas offrir un sacrifice, je meurs. Et c'est la mort spirituelle sans la croix. La croix porte ceux qui la portent. Si tu refuses de porter ta croix, Dieu ne pourra pas te supporter, te soutenir. C'est cette croix que tu portes qui permettra à Dieu de te tenir près de lui et de te garder dans sa main. Ne refusons pas la croix. Acceptons de souffrir pour le maître. Et un jour, il nous récompensera. 4 compromis dangereux du chrétien. Veillons à cela. Veillons à ces compromis. Si nous ne voulons pas être paralysés, pétrifiés, et comme la femme de Lot, ou mourir dans le désert, comme les Israélites, faisons bien attention. Et beaucoup sont morts dans le désert. Une vraie conversion, c'est changer sa vie. Et quand Dieu nous montre quelque chose dans notre vie chrétienne, et qu'on sait que c'est mal, nous devons obéir. Attention, ce compromis, tu peux servir Dieu sans obéir. Et Dieu me bénit quand même, attention. Ça, ce n'est plus l'évangile de Jésus-Christ. La grâce de Dieu peut être là. Mais elle ne nous est jamais donnée pour nous dispenser d'obéir. Mais toujours pour nous donner la force d'obéir. Et d'être des vrais témoins. Pas trop loin. Ah bon? Les premiers chrétiens ont été jusqu'à la mort, jetés au lion, jetés. Et encore aujourd'hui, il y en a qui souffrent. Nous, il ne faut pas qu'on aille trop loin. Mais on veut toutes les bénédictions. Hein, les bénédictions, on les veut. Mais les persécutions, on n'en veut pas. Attention, ça, ce n'est plus le christianisme. Ça, c'est un évangile qu'on s'est fabriqué nous-mêmes. Ça n'a plus rien à voir avec ce que Paul prêchait. Pourquoi Paul? Je termine maintenant. A-t-il eu pendant 3 semaines un tel impact? Parce qu'il a dit les choses qu'il fallait. Ce que beaucoup de prédicateurs ne veulent pas dire. Non seulement ils ne veulent pas le dire, mais ils disent que Paul même s'est trompé. Et que c'est faux de faire cela. Vous vous rendez compte d'où on est? On en vient à prêcher d'autres évangiles. On a trouvé mieux que Paul. Et mieux que le Seigneur. Que Dieu ait pitié de ces personnes et de ces prédicateurs. Que le Seigneur nous donne de ne jamais faire ces compromis dangereux, mortels, avec l'idolâtrie. Si Dieu nous demande d'enlever quelque chose, faisons-le. Que le Seigneur nous vienne en aide. Et il viendra en aide à celui qui veut lui obéir. À nous le vouloir et à Dieu le pouvoir. Il ne nous abandonnera jamais. Que son nom soit béni. Seigneur, merci pour ta parole et la vérité, sanctifie-nous par ta vérité. Et fais que ta parole puisse pénétrer au plus profond de nous-mêmes. Et que, Seigneur, nous ne fassions jamais ces compromis coupables et dangereux. Voilà pourquoi nous sommes malheureux, Seigneur. C'est parce que nous sommes toujours entre deux chaises. Mais pour celui qui se donne entièrement, les difficultés sont là, la croix est là. Mais tu es là aussi. Ton esprit de gloire soutient tes enfants. Merci, Seigneur. Nous voulons être de ceux-là. Calomnier, passer pour n'importe qui. On l'a dit de toi-même, que tu étais possédé du démon, que tu mangeais avec les gens de mauvaise vie. Que n'a-t-on pas dit sur toi, Seigneur ? Toi qui étais le saint, le juste, le parfait. Si nous te suivons, Seigneur, sur tes traces, on nous accusera aussi. Fais-nous la grâce d'accepter, Seigneur, et de continuer de te suivre. Et de jamais cesser d'obéir et de te plaire. À ton nom seul soit la gloire. Nous voici. Nous nous donnons, nous redonnons à toi. Transforme-nous. Que aucune idole ne reste dans notre vie. Qu'aucun compromis ne soit fait avec une idole. Que tu détestes. Mais que nous puissions te suivre et te servir. Toi, le Dieu vivant et vrai. Et attendre des cieux ton Fils. Qui nous délivre de la colère à venir. Merci Seigneur, à ton nom soit toute la gloire.
Les paroles prophétiques de la part du Seigneur qui viennent bien compléter ce qui vient d'être dit. Je reviens à ce qui a été dit au début. Suivre l'agneau, ni s'écarter à droite ni à gauche. Et quand l'agneau marche, on marche. Et quand l'agneau s'arrête, on s'arrête. On lui obéit au doigt et à l'œil. On dirait aujourd'hui. Et le Seigneur veut simplement que nous fassions un peu le ménage dans nos maisons. Il y a des maisons où il y a des objets encore qui sont des idoles. Purifions nos maisons. Regardons, allons voir faire le tour de nos objets, de tout ce que nous avons dans notre maison, de la plus petite médaille à autre chose, qui est peut-être un livre ou autre chose, ou une statue ou quelque chose. Allons voir. Afin que rien d'impur ni de souillé, Dieu ne donnera pas sa gloire à une idole. Si nous voulons être parmi le peuple de Dieu qui marche derrière l'agneau, il faut obéir. Ce sera le plus grand honneur que nous puissions faire au Seigneur. Et le Seigneur a une parole d'encouragement et d'exhortation aussi pour quelqu'un qui, à son travail, est méprisé par son entourage. Plusieurs personnes autour de toi t'ont méprisé. Certains t'ont même rejeté dans leur cœur. Mais moi, je te dis, aujourd'hui, que je ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde ce qui frappe les yeux. Mais moi, je regarde à ton cœur, dit le Seigneur. Ne considère donc pas les dires ou les actions des hommes. Ne les considère pas. Car tout ce que l'homme a semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour la chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème par l'esprit, pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Toi, continue de moissonner par l'esprit. Je ne considère pas ce que l'homme considère. Donc ne les crains pas. Affronte-les. Dis-leur la vérité, mais sois surtout une lumière par ta vie, par ta droiture, par ta sincérité, par les paroles de vérité que je mettrai dans ta bouche. Et ne cherche pas à répondre à leurs accusations. Quelqu'un qui est rejeté par sa famille cette fois. Je sais tout ce qui s'est passé. Et toutes les actions des hommes sont pesées devant moi. Te dit le Seigneur, ne crains pas d'être rejeté par les hommes, même par ta famille. Puisque moi-même, je l'ai aussi été. Crains l'Éternel ton Dieu. Cherche à me plaire, à réjouir mon cœur, à honorer mon nom, et tu seras devant moi ce parfum d'une agréable odeur qui réjouit mon cœur et fait la joie de ton Père qui est dans les cieux. ne crains pas ta famille. Celui qui craindra son père, sa mère, son fils, sa fille, plus que moi n'est pas digne de moi, dit le Seigneur. Et combien notre famille peut prendre trop de place, peut prendre la place du Seigneur. Et maintenant, pour quelqu'un qui sert le Seigneur, un serviteur, auquel le Seigneur dit, mon serviteur, souffre avec moi comme un bon soldat. Supporte les souffrances qui sont attachées à ton ministère avec patience, avec courage, te souvenant que j'ai moi aussi connu la souffrance du rejet. Je suis venu auprès des miens et les miens ne m'ont pas reçu. Ne considère donc pas comme étrange les souffrances par lesquelles tu passes, puisque le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Je connais tes déceptions et aussi tes questions. Mais souviens-toi, mon serviteur, que je ne permettrai pas qu'aucune épreuve ne soit au-dessus de tes forces. Si tu souffres avec moi, tu régneras aussi avec moi. Sois donc fidèle à l'appel que je t'ai adressé et continue de travailler de mieux en mieux à mon œuvre. Rappelle-toi que c'est dans le feu que ton œuvre se révélera, car c'est le feu de l'épreuve qui éprouvera l'œuvre de chacun. Et devant mon trône, l'œuvre de chacun sera manifestée. Ton travail n'est pas vain dans le Seigneur, et chacun recevra une récompense. Alléluia, Seigneur. Seigneur, merci pour ces paroles plus personnelles, adressées à certains d'entre nous. Nous voulons te remercier. Tu ne parles pas en vain non plus, Seigneur. Puissions-nous prendre tes paroles au sérieux et croire ce que tu dis et obéir à ce que tu nous dis. Quand tu nous montres quelque chose, Seigneur, tu attends de nous une obéissance parfaite, telle que la tienne. Toi, tu obéissais à ton Père. Tu ne faisais que ce que ton Père te demandait. Nous aussi, nous voulons vivre de cette façon et ne faire que ce que tu nous demandes. Et rien d'autre. T'obéir, Seigneur, te suivre, agneau de Dieu, c'est ce que nous voulons. Et nous voulons continuer de rester dans ta présence.